Vous écoutez le podcast de So Sweet Planet. Je suis Anne Greff et je vous propose des rencontres autour des thèmes des droits humains, de la culture et de l'environnement. Aujourd'hui, j'ai la grande joie de retrouver sur So Sweet Planet Marie-Monique Robin. Bonjour Marie-Monique.
Bonjour Anne.
Tout fraîchement rentrée du Mexique, du début de tournage du documentaire qui va suivre le livre pour lequel nous nous rencontrons aujourd'hui, La fabrique des pandémies, avec quand même un titre en dessous qu'il est important de mentionner, Préserver la biodiversité, un impératif pour la santé planétaire. Marie-Monique Robin, tu es donc journaliste, auteure et réalisatrice, comme je l'avais rappelé lors de notre première rencontre, que vous pouvez retrouver aussi sur So Sweet Planet pour Nouvelle Cordée. Tu as réalisé une quarantaine de films d'investigation et obtenu une trentaine de prix, dont le prix Albert Londres en 1995 et le prix norvégien Rachel Carson, de grands noms, en 2009. Tu as aussi écrit plusieurs livres, généralement liés à tes documentaires. Je t'aurais bien vu, Marie-Monique, enquêter dans les affaires policières comme on voit dans les séries américaines ou l'on voit dans les commissariats ou les bureaux du FBI, des enquêteurs qui collent des documents sur un mur et qui tendent des fils entre ces documents pour relier les pistes, parce qu'indéniablement, tu as un vrai talent pour relier des choses dans le temps et dans l'espace et dévoiler des connexions, faire apparaître au grand jour les causes de grands problèmes dont souvent nous, pauvres citoyens, ne voyons que les effets ou les conséquences, et en ça c'est un travail que j'estime très précieux. Je vais lire un petit extrait pour commencer de la page 16 de ce livre où tu dis, et c'est écrit en italique parce que c'est répété plusieurs fois dans le livre, « On savait ». Mais la politique de l'autruche signe un manque de courage. Alors, on savait, on parle donc de la pandémie.
Du lien entre la biodiversité et la pandémie.
Voilà, donc on savait. Mais la politique de l'autruche signe un manque de courage, évitant d'emprunter la seule issue qui vaille, la remise en cause du modèle économique dominant, fondé sur l'emprise prédatrice des humains sur les écosystèmes, qui pourrait conduire à l'effondrement de la vie sur Terre. Alors, il me semble important ici de préciser de où tu parles, en fait, pour comprendre que ce ne sont pas des propos faciles, comme on peut entendre quelquefois, contre le capitalisme. Tu as réalisé plus de 40 documentaires, donc je l'ai dit, d'enquêtes sur le terrain, un peu partout dans le monde, sur des sujets très variés, mais souvent liés à des atteintes aux droits humains et à l'environnement. Même si depuis quelques années, je sais que tu tiens à le souligner, tu enquêtes aussi sur des solutions. Au travers de toutes ces investigations, tu as observé et constaté les mécanismes, les rouages qui mènent à des catastrophes. Et lorsque tu écris cela, là, le passage que je viens de lire, j'ai l'impression que c'est un peu une synthèse que tu peux faire aujourd'hui de toutes ces observations qui culminent en fait. Et comme beaucoup de gens qui ont pu faire ce constat, tu es un peu en colère, même si tu essaies toujours de faire de cette colère quelque chose de constructif, comme ce livre. Donc, au début de cette aventure, si j'ai bien compris, il y a un article du New York Times. J'aimerais bien que tu nous racontes ce point de départ.
Oui, ben c'était fin janvier 2020. Je suis tombée sur un article d'un collègue qui est un journaliste scientifique et écrivain, David Quammen, qui disait, le titre de l'article, c'était « We made it ». C'est nous qui l'avons faite, sous-entendu la pandémie. Je me suis dit, tiens, c'est quoi ça ? Et j'ai lu l'article, il y avait des citations de scientifiques qui expliquaient comment, effectivement, eh bien, la destruction de la biodiversité était à l'origine de l'émergence de nouvelles maladies infectieuses. Et j'ai commencé à tirer la ficelle. Alors moi, tu sais, je dis souvent ça, j'aime beaucoup tricoter, c'est dans la vie réelle aussi.
Ah oui.
Et pour tricoter, on tire la pelote. Oui. Et j'ai commencé à tirer la pelote. Et ça, c'est une phase que j'adore dans mon métier. Oui. Je ne savais pas du tout où ça allait m'embarquer, tu vois, vraiment pas. Et j'ai tiré, quoi. Et puis, je suis tombée très vite sur un scientifique à qui je rends hommage, qui est d'ailleurs associé à l'écriture de ce livre. Serge Morand, qui est on appelle ça en anglais un disease ecologist, un écologue de la santé, mais qui était parasitologue d'abord, et puis qui s'est formé, reformé, et qui maintenant revendique ce nouveau métier, un peu un métier chapeau, si j'ose dire, d'écologue de la santé, qui est en Thaïlande depuis 8 ans, qui est à la fois rattaché au CNRS et au CIRAD, un organisme de recherche. Et voilà, je l'appelle, je tombe très rapidement sur un mail, enfin voilà. Et il est à Bangkok et il me dit « Ah, je suis ravie de vous entendre. » J'ai dit « Ah bon ?» Et il me dit « Oui, je connais le monde Solomon Santo, que j'ai beaucoup apprécié. Et je rêvais que vous fassiez la même chose que vous avez fait dans votre livre et film Le monde Solomon Santo, c'est-à-dire de rassembler tous ceux et celles, bon, en l'occurrence pour le monde selon Monsanto, c'était les lanceurs d'alerte qui partout dans le monde disaient attention, Monsanto se comporte très mal, enfin voilà.
Oui, et qui n'étaient pas écoutés, et qui restaient isolés les uns des autres.
Voilà, tout à fait, qui ne s'étaient jamais rencontrés. Et voilà, donc je les avais rassemblés et ça avait fait... pour eux, c'était très important, quoi. Parce que du coup, ça crée aussi une très grande cohérence, évidemment, dans toutes ces dénonciations locales. Voilà.
Oui, et puis une force, du coup, que quand ils sont isolés à dire leurs choses tout seuls dans leur coin, ça a du mal à passer.
Bien sûr. Et là, l'idée, il me dit, bah, voilà, nous sommes des dizaines de scientifiques dans le monde entier qui, depuis au moins, on va dire, une quinzaine d'années, sonnons la sonnette d'alarme, tirons la sonnette d'alarme, pour dire, attention, nous sommes entrés dans une ère de grande inquiétude et d'incertitude sanitaire. Et si on ne s'attaque pas aux causes, hein, eh bien, nous allons entrer dans ce qu'ils appellent une ère d'épidémie, de pandémie. Et ils ajoutent à ça, d'ailleurs, une ère de confinement chronique, ce qui n'est pas une très bonne nouvelle. Hein. En gros, ça veut dire qu'on va toujours vivre avec un masque dans son sac, quoi. Et moi, je me suis dit, tiens, c'est quoi ça? Et là, vraiment...
Sans compter que ça pourrait être plus mortel que ça ne l'est actuellement, les prochains virus, oui.
Ah oui, tout à fait. Et d'ailleurs, au final, grâce à Serge, qui m'a ouvert son carnet d'adresses, parce qu'il avait confiance en moi, c'était très important, la question de la confiance, hein, eh bien, j'ai pu continuer à tirer la pelote. Et j'ai interviewé 62 scientifiques issus des 5 continents, qui disent aussi, pour répondre à ce que tu viens de dire, alors je suis très prudente dans la manière de s'exprimer, parce que ça peut... Voilà, que cette pandémie actuelle, ce n'est rien du tout. Alors, je vais faire peut-être peur en disant ça. Enfin, peur, en tout cas, ça va énerver certains, peut-être. Mais non, qu'est-ce qu'ils veulent dire avec ça? Que ça ne tue que 0,1% des personnes qui sont contaminées. Alors, évidemment que c'est trop, surtout si on a un proche. Mais évidemment, on va pas, c'est pas ça la question. La question, c'est si on avait un virus beaucoup plus mortel comme Ebola, dont on reparle actuellement en Afrique, apparu en 1976 en Afrique, il y a des flambées épidémiques régulières et très mortelles. Il tue 50, voire 60 à 80% des gens qui sont contaminés. Alors bien sûr, pour l'instant, il n'est pas contagieux de manière aérienne, hein, donc, comme c'est le cas du coronavirus, mais on découvre dans mon livre, grâce à un virologue très intéressant au Gabon, qu'il n'est pas exclu qu'il ne mute pas. Enfin, il est possible qu'il mute,
oui.
Voilà,
oui.
Pour devenir transmissible par voie aérienne. Hein. Vous imaginez un virus qui serait transmissible comme ça, comme le coronavirus actuel ou la grippe, oui. Hein, et qui tue 60 à 80% des gens. Alors, enfin, quand tu entends ça, tu te dis, ah oui, c'est vrai, parce qu'il faut reprendre un peu de recul. Bon, c'est ça que j'ai essayé de faire, de prendre du recul. Et sans, encore une fois, nier le drame que ça peut être, évidemment, de perdre des proches du coronavirus. C'est pas ça le problème. Alors, ce qu'ils disent aussi, d'ailleurs, parce que ça, on aura fini de tordre le cou à certaines choses, c'est que si on avait suffisamment de lits dans les hôpitaux pour soigner les gens à risque... donc qui sont bien identifiés, eh bien, nous n'aurions pas besoin de paralyser l'économie, parce que c'est un petit virus. Et c'est là qu'ils disent aussi, donc, prenons de la hauteur, sortons d'une gestion uniquement à court terme de ce que nous vivons. Le court terme, c'est quoi? C'est trouver un vaccin et un traitement. Ils ne disent pas que ce n'est pas légitime. C'est légitime.
Oui, bien sûr.
Voilà.
Ce sont des gens sensés, quoi.
Ce sont des gens sensés. Alors, ils émettent certaines réserves par rapport à la possibilité de mettre au point un vaccin efficace dans un délai aussi court. Plusieurs rappellent dans le livre que sur les 40 vaccins qui marchent, entre guillemets, enfin qui sont largement utilisés et qui jouent leur rôle, eh bien, ce sont des centaines, voire des milliers de tentatives de vaccins qui ont été abandonnées. Donne avec juste titre l'exemple du sida, dont il faudrait quand même se rappeler que dans les années 80, on nous a promis vraiment à corps et à cri un vaccin qu'on a finalement abandonné, parce que pour l'instant, il n'y a pas de vaccin. Et explique pourquoi. C'est un virus à ARN qui mute facilement, comme la grippe d'ailleurs. Hein. Et donc, ça leur paraît très difficile de mettre en un an au point un vaccin qui marche, mais ils disent quand même que c'est légitime de le chercher. OK, une fois qu'on a dit ça, maintenant, c'est quoi les causes? Et ça, c'est une perspective à moyen et long terme. Et c'est là qu'ils sont très inquiets, parce qu'ils disent que, évidemment, ce n'est pas du tout ce qu'on fait en ce moment. Voilà.
Donc, à la fin de l'introduction de ce livre, tu nous livres exceptionnellement quelque chose de plus personnel. Donc, tes deux parents sont tombés gravement malades durant l'été 2020. Tu es allé les rejoindre pour prendre soin d'eux et ta mère, tes deux parents donc, sont décédés.
Oui, c'est ça. Voilà. Maman est décédée fin octobre.
Oui.
Et je me suis occupée de... Depuis le mois d'août, je suis retournée dans mon Poitou natal avec mon mari pour m'occuper d'eux. Et puis, papa... Quand j'écrivais le livre, j'ai terminé le livre en novembre dans ma maison familiale. Mon père était encore en vie, mais il est décédé fin février. Donc voilà.
Oui. Et donc, tu es allé les rejoindre pour prendre soin d'eux. Et tu dis que cette expérience nécessaire et douloureuse de l'accompagnement très cher en fin de vie a fortement résonné avec la parole des scientifiques qui constituent la matière de ce livre, réapprenons à prendre soin, nous disent-ils, avec un respect de la vie qui m'a tout simplement fait un bien fou. Je te cite. Ce petit passage m'a aussi beaucoup touchée parce que c'est un concentré de choses très importantes. L'aspect personnel, bien sûr, puis ce réapprenons à prendre soin tellement précieux et le fait que tu soulignes un dénominateur commun que partagent, je crois, tous les scientifiques que tu as interrogés, l'importance qu'ils accordent au respect de la vie. Dès le début du livre, en fait, avec ces deux aspects, là, personnel et professionnel, on est vraiment sur l'essentiel. L'essentiel, je veux dire, pour nous, l'humanité, en fait, quoi.
Tout à fait. Et ça a vraiment fait écho, en fait. Parce que moi, donc, je devais rendre ce livre pour qu'il soit publié en octobre. Donc, je devais le rendre fin août. Donc, évidemment, mes plans ont été bouleversés par cette situation familiale. J'ai d'ailleurs prévenu la découverte en disant je ne pourrais pas le rendre dans les temps parce que ma priorité, c'est mes parents. Et alors, j'ai continué mes entretiens. Enfin, j'avais déjà fait une grande partie. J'étais en train d'écrire, en fait, hein. Ce qui a sorti de tous ces entretiens avec ces scientifiques qui pouvaient être parasitologues, infectiologues, épidémiologistes, vétérinaires, médecins, anthropologues, etc. C'est des disciplines très variées, mais qui tous avaient en commun cette réflexion et donc qui étaient rattachés à ce qu'on appelle l'écologie de la santé. Hein, donc voilà. Eh bien, ils disaient tous qu'en fait, si on est dans cette impasse sanitaire, mais ce n'est pas la seule impasse. Il y a aussi l'impasse climatique. Oui. Et puis l'impasse sociale, hein, les grandes inégalités, en fait.
Et tout ça, est lié.
Tout est lié. Et qui me disait, c'est tout est lié. Et non seulement tout est lié, mais c'est les mêmes causes qui provoquent les mêmes effets, avec différentes facettes. Mais tout ça, tout est lié. Et qu'à l'origine, c'est un manque de soins que nous avons, nous les humains, qui nous considérons au-dessus de la pyramide du vivant, alors que nous faisons partie de ce vivant. Voilà. Et qu'à force d'avoir cette attitude prédatrice, c'est-à-dire de considérer qu'on peut puiser dans la nature n'importe comment, polluer l'air, la mer, les océans, oui. La terre, le sol, enfin tout quoi, en permanence, et bien qu'à un moment, eh bien, c'est plus possible. Quoi. Oui. Et qu'il fallait donc revoir notre position, à nous les humains, dans la chaîne du vivant, avec une plus grande, beaucoup plus grande modestie, c'est vraiment un mot très faible pour dire ça, arrêter d'être arrogant en fait, hein, oui. En considérant qu'on est déconnecté du vivant et qu'on pourra survivre une fois qu'on aura tout détruit, hein, autour de nous, ça c'est pas possible quoi. Et que donc il fallait réapprendre à prendre soin. Et moi donc, j'étais dans cette situation où je prenais soin de mes parents, et donc prendre soin, ceux qui m'écoutent savent ce que ça veut dire quand on a des personnes qui vont vers leur fin de vie, c'est des choses très concrètes, très, enfin voilà, et que je n'avais jamais faites évidemment. Oui. Et c'était parce que tu peux pas réapprendre à prendre soin de la terre, des ressources, si tu prends pas soin des proches, tu vois, de tes proches. Voilà.
Alors ce livre, La fabrique des pandémies, ce livre pourrait paraître austère par son sujet, mais en fait pas du tout. Parce que en fait, l'un de tes talents, Marie-Monique, c'est aussi de rendre vivant et de réussir à nous intéresser à des sujets qui pourraient paraître rébarbatifs. C'est vrai que quelquefois, juste en voyant les titres, et là surtout en voyant le nombre de pages quand j'ai reçu le livre, j'avais un peu peur. Et en fait, j'ai un vif souvenir déjà de l'aventure exaltante dans laquelle tu nous avais emmenés avec ton documentaire Le Monde selon Monsanto. Il y en a eu d'autres, mais c'est vrai que moi, dans ma vie personnelle, celui-ci a été une étape très importante dans ma compréhension du monde et de son fonctionnement. Et là aussi, en fait, tu prends soin, toi aussi, justement, des personnes auxquelles tu t'adresses, parce qu'on sent vraiment que tu souhaites transmettre ta passion. Et il n'est pas question, on le sent, que le lecteur s'ennuie. Et en fait, dès le début du chapitre 1, par exemple, tu nous rapportes cette savoureuse anecdote des coulisses de ton enquête, une anecdote qui témoigne de ton talent d'enquêtrice avec le baudet du Poitou. Qu'est-ce qui s'est passé avec le baudet du Poitou ?
Alors moi, je suis originaire du Poitou-Charente, donc on a un animal emblématique qui a longtemps été menacé d'extinction. Et grâce à des agriculteurs locaux, en fait, hein, ils ont réussi à sauver cet âne du Poitou qui a la caractéristique d'avoir des poils très 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 longs qui tombent quasiment sur le sol, quoi. Oui. C'est vraiment une race d'âne, voilà. Et c'est un peu l'emblème de ma région d'origine. Et tu sais, on dit souvent que les ânes sont, voilà, têtus, hein.
Oui.
Alors on dit souvent têtu comme un âne du Poitou.
Expression.
Et moi, je pense que je suis très têtu. Ça a des inconvénients, mais c'est aussi des avantages.
Oui,
quand
surtout
on fait
dans
l'investigation,
ce métier.
Par exemple.
Voilà.
Et donc, je voulais interviewer un grand monsieur parce qu'il dirige donc la chaire d'épidémiologie de l'Université Columbia à New York. Et il a à peu près 70 ans.
Oui.
Et Je lui ai envoyé des mails et encore des mails et toujours des mails. Et évidemment, il ne répondait pas. Certainement très sollicité, mais bon, voilà. Et à un moment, dans l'objet du mail, un peu, tu vois, dernière tentative, oui. Quoi, je mets demande d'interview de la part d'une journaliste très têtue. Voilà. Mm-hmm. Et là, je lui envoie une photo de l'âne du Poitou. Et donc, j'écris un mail que j'ai traduit d'ailleurs dans le livre. Oui. Hein, voilà, très sympa. Voilà, ouais, oui. Encore, excusez-moi, je suis aussi têtue que l'âne du Poitou. Et il m'a répondu.
Ça a marché.
Ça a marché. Et ça, c'était super parce que ce
comme
monsieur...
Comme quoi, il faut être créatif quand on fait de la l'investigation.
Oui.
Pour arriver à ses fins.
Il m'a répondu tout de suite, oui. Vraiment. Ah ben merci, parce que votre âne du Poitou, j'ai regardé, c'est fascinant. Enfin,
c'est drôle, oui.
Et c'était quelqu'un d'important pour moi parce qu'en fait, je sais pas, enfin, par rapport à ta question, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les maladies infectieuses, donc... dont font partie des maladies comme la Covid-19 oui. Actuellement, hein, sont provoquées soit par des bactéries, soit par des virus. Eh bien, au début des années 1980, on pensait que c'était fini.
Ah oui, mais on va en reparler.
Voilà.
Alors, pour nous poser le contexte et comment on en est arrivé là, hein, nous tous, l'humanité, puisque pour une fois, on se retrouve à être tous concernés par cette pandémie, tu nous offres au début du livre une petite leçon d'histoire très intéressante, parce que l'on y voit qu'en 1967, on pensait que le chapitre des maladies infectieuses était clos. Mmh. En 1980, tu nous rappelles que l'OMS annonce que la variole a été éradiquée et confirme que tout ça, c'est fini. On en est tellement sûr que l'on va réorienter les crédits de la recherche vers d'autres maladies. Mais comme le souligne ton interlocuteur, le scientifique Stephen Morse, l'autosatisfaction est un puissant allié pour les maladies infectieuses. Mmh. Et en fait, le chapitre n'était pas clos.
Pas clos du tout, donc tout à fait. Donc, 1976, apparition de Ebola, une maladie provoquée par un virus dont on sait qu'il est son réservoir, comme on dit, hein, donc c'est une chauve-souris. Hein. Mmh. Et c'est une maladie, on en a parlé, très dangereuse, quoi,
oui.
Hein, qui pour l'instant ne se transmet que par contact avec les fluides, alors la transpiration, les urines, enfin la salive des malades. Mais voilà, si ça se transformait et devenait transmissible par voie aérienne, donc là, ça serait vraiment très, très inquiétant, oui. Parce qu'elle est très mortelle. Une autre maladie moins connue, la légionellose, mais surtout le sida. Parce qu'en fait, on oublie, c'est amusant d'ailleurs hein, qu'on ne fasse pas le lien. Parce que le sida, comme Ebola, font partie de ce qu'on appelle des zoonoses, hein, donc des maladies qui, dont l'origine, c'est un virus ou une bactérie qui vient d'animaux sauvages hein, et qui, à un moment, va donc sauter, c'est jump à l'homme, en passant d'ailleurs par une case intermédiaire, qui
oui.
Est souvent un animal qui peut être sauvage ou domestique. Et voilà, donc... le sida en fait partie maintenant. D'ailleurs, il y a un encadré, Serge Morand a écrit les encadrés dans mon livre, et qui rappelle l'origine du sida, qui est un virus qui provient de primates, hein, de chimpanzés.
On va en reparler voilà. Aussi, parce que ça m'a assez sidéré cet encadré.
Bah oui, bien sûr. Et donc, voilà, alors, autosatisfaction, parce qu'effectivement, l'OMS dit, voilà, on a éradiqué la dernière grande maladie infectieuse, qui est la variole, qui aussi est une maladie très mortelle, n'est-ce pas ? Qui laisse en plus les gens, très long... enfin, les personnes qui avaient été contaminées... défiguré, enfin c'était horrible quoi. Et puis, alors on oublie au passage quand même, parce qu'on a ce triomphalisme, c'est fini les maladies infectieuses, parce qu'on a eu les vaccins, on a les pesticides qui détruisent, enfin voilà. Mais on oubliait quand même qu'il y avait encore le paludisme par exemple, ou la fièvre jaune, parce que ça concerne certainement des pays du Sud et que voilà. Et en tout cas, l'OMS dit maintenant on va se consacrer aux maladies chroniques qui sont les nouvelles maladies, les cancers, les problèmes cardiovasculaires, etc. Sauf patatras, donc, parce qu'effectivement, ben, le sida, comme une grande zoonose très dangereuse, n'est-ce pas ? Et puis après, la liste devient très impressionnante. Hein, parce oui. Que si on commence à les, tous les nommer, le premier SARS, en 2003, mais aussi MERS, Chikungunya, Zika, Nipah, la liste est très longue. Et donc Stephen Morse fait partie de ces personnes qui disent attention, c'est loin d'être terminé, et qui va donc un peu secouer le cocotier, parce que c'est tellement vrai qu'on est dans l'autosatisfaction qu'on ferme carrément les départements dans les universités américaines ou à l'OMS des maladies infectieuses. Alors qu'apparaissent déjà les premiers cas de tuberculose, d'ailleurs, recrudescence de la tuberculose en raison notamment de la résistance aux antibiotiques. Hein,
c'est ah oui, voilà. On va en reparler aussi de ça.
Voilà, ça. Donc, il dit attention, il arrive à... Alors, lui, parle de virus émergent au début. Hein, et il arrive à convaincre son mentor qui dirige l'université Rockefeller, qui a un prix Nobel, Joshua Lederberg, d'organiser à Washington en 1989 une conférence, une grande conférence où il y a 200 personnes qui sont conviées sur les virus émergents. Et c'est intéressant parce que donc j'ai retrouvé les actes de cette conférence qui passait inaperçue à l'époque. Hein. Eh bien, on évoque toutes les causes qui sont à l'origine de l'émergence de ces virus, de ce nouveau virus, qui sont des causes anthropiques, c'est-à-dire dues à l'activité des humains, et très bien décrites, quoi. La déforestation, la globalisation déjà, hein, donc les échanges mondiaux qui vont faire qu'on peut déplacer très rapidement un virus qui vient d'émerger à l'autre bout du monde, l'urbanisation, les élevages intensifs,
voilà, tout y est
et
déjà.
Le climat aussi, oui. Parce que ça en fait partie. Tout y est.
Et on est en
1989. Et pourquoi il ne me répond pas, Stephen Morse? Il ne l'aurait pas fait s'il n'avait pas eu le bonnet du Poitou, mais il le fait. Et pourquoi il ne me répond pas? Il me l'a dit, parce qu'il était très déprimé, en fait. Et c'est assez intéressant d'ailleurs, parce que parmi les 62 scientifiques que j'ai interviewés pour ce livre, la plupart sont très déprimés. En fait.
Et alors tu écris page 26 que personne ne s'intéressait toutefois aux causes de l'émergence du sida, mais aussi d'Ebola, comme tu viens de le dire, et qu'il manquait une compréhension des facteurs qui permettaient à ces pathogènes zoonotiques, c'est-à-dire d'origine animale, de sauter soudainement à l'homme. Alors donc, comme tu viens de le dire, en 89, Stephen Morse décide de réunir ses collègues éminents scientifiques lors de la conférence de Washington pour discuter des virus émergents. Et donc tu lui as demandé quels facteurs d'émergence avaient été mis en avant par les intervenants. Donc ces facteurs d'émergence, donc que tu viens de rappeler, développement de l'agriculture, déforestation, destruction d'habitats naturels, dérèglement climatique, qu'est-ce qui fait que personne n'entend à ce moment-là? Il en a une idée? On en a une idée de pourquoi ça se noie dans le...
Ah ouais, alors ça c'est assez incroyable, hein, parce qu'en fait, il faut voir qu'on n'entend pas parce qu'au même moment se passe sur la planète un grand événement quand même qui est l'effondrement de l'Union soviétique. Hein. Et ça tu vas dire à quel rapport? Oui. Et alors, c'est très bien expliqué par deux interlocuteurs que j'ai dans le livre, hein, qui sont des sociologues des sciences et historiens des sciences. Et c'est l'époque où les États-Unis se retrouvent sans ennemis. Il n'y a plus d'ennemis.
C'est assez fascinant, les passages que tu cites, là, de Colin Powell, c'est
Colin Powell, oui. Qui à l'époque, donc, secrétaire aux armées, enfin, de la défense américain, qui dit qu'est-ce qu'on va faire? On n'a plus d'ennemis, hein, il nous reste Fidel Castro, enfin voilà. Et il y a une grande... Alors, il faut quand même se remettre dans le contexte de l'époque. Jusqu'à la chute du mur de Berlin en 1989, effectivement, et l'effondrement de l'Union soviétique deux ans plus tard, on a, pendant toutes ces périodes de la guerre froide, hein, après la Seconde Guerre mondiale, dépensé des millions et des millions. C'est une industrie énorme qui tourne autour de ça, quoi. Voilà. Mm-hmm. Et c'est de l'argent, c'est tout le lobbying militaire qui était dans cette logique de guerre froide. Et d'un seul coup,
ça
ne sert plus à rien. Et en fait, ce que j'ai découvert, et moi vraiment, ça a été un truc complètement fascinant, hein, tous les enseignements de la conférence de Washington vont être mis sous le tapis au profit d'une petit à petit de l'émergence d'une nouvelle théorie qui va faire de la santé un enjeu de sécurité intérieure. Et là, il y a plusieurs étapes. Voilà, donc l'effondrement du mur, évidemment, et puis très rapidement, je donne la date, je crois que c'est 95, attentat dans le métro de Tokyo avec une secte là, qui utilise du gaz sarin.
La secte Aoun, oui.
Voilà, la secte Aoun. Et Bill Clinton est complètement paniqué. D'ailleurs, il y a des extraits incroyables. Mmh. Enfin, voilà, et puis, on va vers, évidemment, les attentats du 11 septembre, qui va en rajouter une couche sur le bioterrorisme. Et ça devient un nouveau créneau où on peut faire de l'argent pour tous ceux qui n'ont plus de contrat. Enfin, c'est ça qu'on comprend, quoi. Voilà. Mmh. Et ils vont, en plus, il y a des faucons donc, à la Maison-Blanche, donc les conservateurs. Qui vont faire aussi Dick Cheney, Bush Junior, enfin, et tous ceux qui sont autour de lui. Alors, c'est un sujet que je connais bien parce que moi j'ai fait Torture Made in USA.
Ah oui,
c'est un film. On voit comment sous ces faucons vont faire que. Vous voyez, on va utiliser, y compris la torture d'ailleurs, en essayant de la justifier. Enfin bref, donc je vois très bien. Et on pousse de plus en plus vers ça, c'est-à-dire qu'à un moment, on va s'emparer d'un concept qui émane de la, enfin qui est née pendant la Seconde Guerre mondiale, qu'on appelle la preparedness en anglais. Alors c'est très difficile à traduire en français. Hein. C'est l'action de se préparer, que l'État se prépare à un danger. Alors à l'époque, Seconde Guerre mondiale, fin de la Seconde Guerre mondiale, c'est un danger nucléaire, hein, parce qu'on est dans cette logique de guerre froide et que l'Union soviétique pourrait déclencher une guerre nucléaire. Donc se préparer, ça veut dire quoi pour l'État? Ben ça veut dire avoir des bunkers, enfin, par exemple, pour pouvoir se réfugier s'il n'y a jamais une attaque nucléaire, enfin, etc. Puis petit à petit, ça va s'étendre à des, cette preparedness, donc c'est aussi préparer l'administration, hein, à prendre des mesures quand il y a des situations d'urgence qui peuvent être climatiques, qui peuvent être des ouragans, enfin voilà. Et petit à petit, pour faire court, hein, une dérive qui va faire que le risque sanitaire qui est identifié comme venant des pays du Sud, donc c'est de là, le danger va venir de là, hein. Donc des virus qui pourraient émerger des forêts tropicales, etc., eh bien, bien sûr, on ne prend pas en compte le fait que ce sont les activités, par exemple, de compagnies américaines qui vont faire que ce virus émerge, ça, on n'en tient pas compte. C'est, ça devient une espèce de, d'ennemi potentiel, n'est-ce pas, qui va être mis dans le même pot que le bioterrorisme. Hein, donc, y a eu l'histoire de la secte Aoun. Après, il y a eu aussi un chapitre avec un colonel soviétique qui dirigeait une entreprise soviétique pour faire des armes chimiques. Enfin bref, qui va être auditionné par le Congrès. Et puis, les attaques à l'anthrax après le 11 septembre, où un fou furieux américain, en fait, hein, c'était même pas... Voilà, mais de l'anthrax, oui. C'est très dangereux, évidemment, dans des enveloppes qui donnent la maladie du charbon, qui est vraiment mortelle, on en meurt. Et donc, on met ça dans le même pot, c'est-à-dire le bioterrorisme, l'action de terroristes qui utilisent des armes chimiques pour attaquer des personnes, et le risque sanitaire, donc provenant de maladies zoonotiques, on met ça dans le même pot. Et en fait, voilà comment, c'est ce qu'on découvre, donc ce risque infectieux va être intégré dans une nouvelle doctrine de sécurité intérieure, qui va faire aussi que dans la preparedness, ça consiste en quoi? Jusque-là, c'était anticiper des risques connus, nucléaires, même si on ne sait pas trop, quand même on a une idée de ce qui va se passer, parce qu'il y a Hiroshima et tout ça. Mais là, on va essayer donc de se préparer pour un risque totalement inconnu. Donc, on est dans un délire total où les scénarios du pire...
Oui, avec des jeux, des wargames, des jeux de rôle...
Incroyable. Où en fait, on dingue, vraiment dingue. Hein. On imagine des trucs complètement dingues qui d'ailleurs font peur, hein, parce que je donne des exemples. Hein. On réunit des gens et puis des centaines de personnes et on les met dans des jeux de rôle en disant imaginez...
Y compris des Français. Bernard Kouchner qui part participer à faire des jeux de rôle et ça coûte en plus très cher.
Ouais, voilà. Ouais. Et tout pendant qu'on fait ça, et ça va gagner l'Europe après, hein, parce que ça part des États-Unis, ça gagne l'Europe. Et on fait de ce problème de santé possible un enjeu de sécurité intérieure nationale. Et du coup, on oublie totalement, on met sous le tapis, parce que oublier, c'est, on met sous le tapis les causes anthropiques, donc les causes humaines, oui, qui font que ces virus peuvent émerger et sortir du bois et nous contaminer. Et ça, c'est absolument fascinant. Et pourquoi donc Stephen Morse, il est déprimé, hein, quand moi, j'ai réussi à l'interviewer. C'est parce qu'en fait, il a passé sa vie à cette histoire de preparedness qui, quand même, s'est préparé. Voilà. Et au puis, pire. Évidemment, il se dit, on a tout raté. Quoi.
D'ailleurs, tu cites un scientifique qui parle d'une étude qui avait été faite d'anticipation avec deux villes dans lesquelles le virus avait un virus très mortel avait le plus de chances d'apparaître. Ça, c'était en 2019, je crois.
Alors, mais ça, c'est une étude scientifique. Ça,
oui. Avec deux villes, dont Wuhan.
Oui. Tout à fait. Donc c'est Rodolphe Gozlan qui travaille pour l'IRD, l'Institut de Recherche pour le Développement, notamment en Guyane. Et c'est absolument extraordinaire. C'est-à-dire qu'il a commencé par la Guyane. Hein, c'est-à-dire qu'il a travaillé avec les médecins des hôpitaux. Donc je vais bientôt l'interviewer d'ailleurs là-bas. Et il a donc identifié les malades et a récupéré leurs adresses. Donc malades de maladies infectieuses. L'ulcère de Bourouli, qui est par exemple un truc très méconnu chez nous, mais vachement... Enfin, c'est comme la lèpre, en fait, hein, et qui est transmis par une mycobactérie qu'on retrouve dans les milieux aquatiques, dans les marais, enfin, etc. Mais aussi la leishmaniose, la leptospirose, enfin, toute une série de maladies infectieuses pas très sympathiques. Et puis, il a constaté où habitaient ces personnes. Après, il a croisé ça avec différentes données climatiques, etc. Et donc, bref, il a réussi à mettre au point tout un logiciel, en fait, qui permet de montrer très exactement que ces foyers épidémiques de ces maladies infectieuses sont directement liés aux activités de déforestation en Guyane. Et après, il s'est dit, puisque j'ai cet outil, et qui est très précis, parce qu'il a réussi aussi à prévenir enfin pas à prévenir, à anticiper, dans les 5 prochaines années, les risques de maladies infectieuses en Guyane, en utilisant son outil, et il a vraiment bien prédit. Et il s'est dit, puisque j'ai ça, je vais répondre à une demande de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui a lancé une espèce d'appel d'offres en disant, scientifiques, là, voilà, travaillez sur la maladie X. La maladie X, c'est une maladie inconnue qui pourra apparaître quelque part et se transformer en pandémie. Hein, ça fait un peu rigoler parce que tu te dis, bah voilà, on y est, quoi, c'est la Covid. Et lui, donc, s'y met et donc utilise son outil, et au niveau global, cette fois, mondial, et son article est accepté pour parution en septembre 2019, donc on est avant l'émergence officielle de la pandémie. Il sera publié qu'au printemps, mais accepté donc voilà, oui, bien avant la pandémie. Et là, il dit, attention, il y a 2 zones qu'il faut vraiment maintenir sous surveillance, parce que tous les risques, enfin tous les facteurs sont réunis pour qu'il y ait une émergence très inquiétante. C'est l'Ouganda et Wuhan. Incroyable, quoi. Enfin, voilà.
Ah oui.
Donc, parce que tout simplement... Ce que disent ces 62 scientifiques, c'est qu'on peut précisément déterminer quelles sont les causes qui vont faire que des virus ou des bactéries qui sont émergés depuis la nuit des temps par les principaux réservoirs, ce sont les rongeurs, les primates et les chauves-souris. Mais ils sont là depuis tout le temps et ils ne nous ont jamais embêtés. Là où ils deviennent problématiques, c'est quand nous intervenons dans les milieux et les habitats naturels où vivent ces animaux.
Voilà.
Et c'est très bien décrit quels sont les facteurs qui vont faire qu'à un moment se constitue ce que Jean-François Guégan, par exemple, un autre scientifique que j'ai interviewé, appelle un territoire d'émergence. C'est-à-dire que les conditions sont réunies, et là, attention, c'est ce qu'a fait Rodolphe Gosselin en disant, attention, 2 territoires d'émergence possibles pour une pandémie, Wuhan et l'Ouganda. C'est pour ça qu'ils disent qu'il faut absolument anticiper, prendre des mesures à moyen et long terme si on veut éviter les prochaines pandémies qui peuvent être bien plus mortelles que celle-ci.
Mais on comprend qu'ils soient tous déprimés parce que des scientifiques qui nous livrent des prévisions, comme ça, il y en a régulièrement, il y en a partout dans le monde. Mais là, ce sont des scientifiques dont pour la plupart, d'ailleurs, ce sont tous des grosses pointures, pour parler en langage...
Oui, c'est vrai,
C'est tous des très grosses pointures.
Tu as raison de souligner parce que c'est pas... on pourrait dire, ah ben c'est des petits écolos avec tout ce que ça veut dire.
Oui, bien sûr.
Non.
Oui.
Moi, je me suis beaucoup attachée à décrire leur parcours parce que je trouvais très intéressant de voir comment ils étaient excellents dans leur discipline, qu'à un moment, ils ont eu dans leur vie personnelle une prise de conscience.
Tu leur poses la question à chaque fois d'ailleurs.
Oui, à chaque fois.
S'il y a une expérience qui a été déterminante par rapport à leur carrière.
Tout à fait. Et ils répondent chacun avec évidemment leurs expériences personnelles qui font qu'à un moment, ils se disent, waouh, il faut que je sorte de ma tour d'ivoire. Hein.
Oui, il y a un réveil
voilà,
à chaque fois. Oui.
Et du coup, se mettre en rapport avec d'autres scientifiques qui peuvent venir de d'autres disciplines. D'ailleurs, ils revendiquent beaucoup l'excellence disciplinaire, hein, mais aussi disent maintenant, il faut qu'on soit, on travaille, on en reparlera, j'imagine, en transdisciplinarité. Parce que, voilà. Et à un moment, ils vont se dire, waouh, là, on a des défis énormes qui sont en train de nous tomber dessus. Alors, on a beaucoup parlé du dérèglement climatique, auquel ils sont sensibles, mais c'est évidemment parce que c'est très lié aussi...
Aux maladies émergentes, aussi,
mais aussi un énorme risque de rentrer dans une ère donc d'épidémie, de pandémie, quoi. Et donc ce sont des scientifiques très reconnus qui ont beaucoup publié dans des grandes revues scientifiques. C'est pas des petites feuilles de chou.
Et l'histoire leur donne raison. Dire pour terminer, c'est qu'en fait il y a beaucoup de scientifiques qui lancent comme ça des prévisions, des suppositions plus ou moins. Mais là, non seulement c'est assis sur des choses indéboulonnables, mais en plus maintenant l'histoire leur donne raison sur la fiabilité de leur prédiction, si on peut appeler ça comme ça. Et on comprend pas que ça soit toujours si peu écouté, quoi. Alors le sida, on a tout entendu justement sur les causes de son apparition, de la punition divine aux multiples théories du complot. Et je suis restée sidérée à la lecture de l'encadré que tu proposes, page 33, un état des lieux des recherches scientifiques pour en retracer l'origine, où il est précisé que la véritable émergence est liée à l'expansion coloniale débutée au 19e siècle.
Tout à fait. Oui, parce que bon, c'est un virus dont on sait maintenant, enfin il y en avait 2 virus pour le sida, qui provient donc de primates, de chimpanzés, mais alors qu'il l'avait donc pareil depuis très longtemps. Et ce que montrent les recherches, c'est que le premier contact avec les humains s'est fait au moment de l'entreprise coloniale de déforestation, alors soit pour faire des voies de chemin de fer, enfin exploiter les arbres.
Oui, tu cites un peu toutes les choses, caoutchouc, bois, ivoire, déforestation, construction de chemin de fer, et il y a même la prostitution dans le lot.
Tout à fait. Et en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que les scientifiques t'expliquent que quand un virus passe, par exemple, d'un chimpanzé à un humain, cet humain peut mourir, on ne sait pas de quoi.
Oui.
Et puis c'est fini, quoi. Voilà. Et avant qu'il s'adapte suffisamment pour devenir contagieux dans le cas du sida et devenir transmissible par voie sexuelle notamment, oui. Il y a tout un temps long. Qui se déroule, quoi.
Oui.
C'est pas pom comme ça. Il faut qu'il s'adapte.
Tu le dis d'ailleurs, l'analyse d'échantillons de sang conservés depuis 1959 oui. montre que le VIH circulait à Kinshasa depuis plusieurs décennies.
Voilà, tout à fait. C'est-à-dire qu'on l'a retrouvé, mais dormant. Voilà.
Oui, c'est pas sorti dans les années 80 comme ça,
non,
ou 70
fait,
même.
Officiellement, il est apparu au début des années 1980 avec un rapport que je cite du Center for Disease Control d'Atlanta qui note qu'il y a 5, je crois, homosexuels, parce que tu te rappelles qu'à l'époque,
on
dit que c'est la maladie des,
oui.
des homos, et puis des haïtiens,
les
drogués, quoi.
Oui.
Voilà, et qu'ils ont tous les mêmes caractéristiques, enfin, tu vois, bon, voilà. Ouais. Et c'est là qu'on l'identifie, parce que c'est là aussi où le virus est tellement bien adapté que ça y est, il est prêt pour être transmissible. Là, en l'occurrence, par voie sexuelle ou sanguine, hein,
oui.
tu te rappelles, voilà.
Et là, ça flambe.
Et là, ça flambe. Mm. Mais avant, il était là de manière silencieuse, enfin, un peu dormante, quoi. Et certainement qu'il y a eu des gens qui en sont morts et qui sont morts au bout d'un certain temps de maladies, de cancer, de carposie ou je sais pas quoi, parce que c'était. Mais qu'on savait pas. En fait, on s'est dit, bon, voilà, qu'est-ce qu'il avait celui-là. Et il n'était pas suffisamment adapté pour pouvoir être transmissible. C'est ça qui est intéressant dans le monde du vivant aussi, hein, c'est que il y a un temps d'adaptation. Dans tous les cas, de toute façon, hein, le coronavirus, c'est pareil. Il passe pas d'une chauve-souris à l'homme comme ça. Souvent, il y a un intermédiaire, donc l'animal, et pour qu'il s'adapte. Et qui mute, et que voilà, et que là on le voit maintenant d'ailleurs avec les
variants.
Les variants, justement, c'est ça, qu'il a une stratégie pour pouvoir survivre. Donc il mute en permanence.
Et alors je ne sais pas où on en est, mais au début on nous a dit que les variants étaient très contagieux, mais moins dangereux que la première version. Et là on commence à entendre qu'en fait, non, si les services d'urgence sont saturés, c'est parce qu'ils seraient, enfin de réanimation, c'est parce qu'ils seraient justement plus dangereux et qu'il y aurait plus de cas graves.
Oui, c'est ça.
Donc on voit la progression de la mutation, en fait, pour devenir, se renforcer, quoi.
Oui. D'ailleurs, moi, les scientifiques, ils m'ont tous dit, le coronavirus, en fait, il est là et on est là pour tout le temps. Hein.
Ben oui, c'est ça.
Parce que, voilà.
Oui.
Donc,
Le premier chapitre, de ton livre autour de ce dont nous venons de parler et de Stephen Morse se termine apparemment, comme ta conversation avec lui, de façon un peu abrupte, où il reconfirme que la destruction de la biodiversité est probablement le facteur principal de l'émergence des maladies infectieuses. Et tu lui poses alors une dernière question qui est assez intéressante.
Ben oui, parce que donc, je viens d'expliquer comment finalement le risque infectieux va être absorbé par ceux qui s'occupent de la sécurité. Donc, tu vois, voilà. Donc, ça veut dire biosécurité, ça veut dire qu'on ne cherche pas des causes, mais la biosécurité, avec, on le voit aujourd'hui d'ailleurs, finalement, le contrôle sur les gens, enfin, etc. Et ça a conduit à quoi ? À notamment un grand programme dont Stephen Morse a été directeur, Predict, qui, dans cette logique de biosécurité, ça consistait à déverser des millions sur des laboratoires pour qu'ils séquencent le virome, on dit, comme on a séquencé le génome.
Oui.
Je rappelle quand même qu'à l'époque, quand on a fait ça, c'était beaucoup d'argent aussi. On nous avait dit, vous allez voir, c'est merveilleux, on va résoudre tout le problème de toutes les maladies. Bien sûr que non, parce que là encore, on a oublié qu'il y en a beaucoup, y compris le cancer, qui sont dus à l'environnement. Enfin, bref, ça fait beaucoup d'argent pour des laboratoires et ça fait tourner des boutiques. Voilà. Et donc là, pareil. Et lui, il a dirigé ça. On va essayer de détecter tous les virus qui peuvent être hébergés par les chauves-souris, enfin dans cette logique, et on va mettre ça dans des bibliothèques de virus, et puis voilà, et puis quoi. Et puis lui, il dit aujourd'hui, rien, quoi, ça sert à rien d'avoir ça. C'est comme chercher une aiguille dans une botte de paille.
Oui.
Il y en a alors des centaines de milliers de possibles. Donc comment on va savoir lequel va à un moment émerger? Parce que l'idée qu'il y a derrière, c'est aussi on dépose des brevets, et puis on a soi-disant des vaccins, enfin, etc. Sauf que tout ça, c'est du pipeau. Parce qu'ils le disent, c'est pas moi qui le dis, ça ne sert à rien. Et lui, il a compris que ça ne servait à rien, et qu'il fallait revenir à ce qu'il avait mis au jour en 1989, c'est que les principales causes de ces émergences, ce sont les activités humaines qui détruisent la biodiversité. Et du coup, ça m'a fait penser. Donc, à un moment, il y a eu la guerre contre les virus qui a été lancée dans ce cadre-là. Mais ça m'a fait penser à la guerre contre le cancer qu'avait lancé le président Nixon, sur laquelle j'ai beaucoup travaillé. C'est la guerre contre le cancer et on va en finir avec le cancer, etc. La guerre contre la drogue, la guerre contre la terreur de Bush. Et je lui dis, qu'est-ce qu'ils ont en commun, toutes ces guerres? Il m'a répondu, la même chose, c'est-à-dire qu'on ne s'attaque pas aux causes et que ça coûte très cher et que c'est infini. Ça s'arrêtera jamais. Voilà. Voilà. Précisément parce qu'on ne s'attaque pas aux causes. Et ça, ça m'a vraiment... pour moi, c'était... voilà, très clair. C'est comme ce qu'on fait aujourd'hui. Mmh. On cherche un vaccin. OK, c'est légitime parce qu'il faut... OK, mais si on s'arrête à ça... Eh bien, on va rentrer dans une course effrénée à chercher des vaccins en permanence. Alors, c'est bon pour les labos, hein, bien sûr, hein, parce que c'est des milliards, on a bien vu, et pas très transparent, tout ça, d'ailleurs. Mais ça ne résoudra pas le problème, parce que, encore une fois, il faut s'attaquer aux causes.
Voilà. Et c'est bien ce que je disais, je te verrais bien mettre tout sur un... Tu fais pas ça, non, pendant les... De tout mettre sur un mur en mettant des lignes qui relient tout ça.
Pour moi, c'était fascinant, en fait, parce que... Je t'ai dit, je commence fin janvier, j'ai jamais travaillé là-dessus. Et puis je tire la pelote. Et là, ça c'est une période extrêmement
excitante, j'imagine. Alors, ce que j'ai beaucoup aimé dans le livre, c'est que, bon, il y a les interviews, mais dans les interviews, il y a aussi beaucoup de cas concrets d'études qui sont racontées et qui montrent à chaque fois le lien de causalité entre vraiment de la cause à l'effet. Par exemple, avec le virus Nipah, qui est un bel exemple bien concret du rôle de la déforestation. Est-ce que tu peux nous raconter rapidement cette histoire? Parce que là, je pense que ça permet de mettre des images sur ce dont on parle depuis le début.
Bah, je trouve que c'est vraiment le paradigme, en fait, le virus Nipah, qui apparaît à la fin des années 1990 en Malaisie. Oui. Et l'histoire est très bien connue, très bien documentée par des scientifiques. On déforeste donc sur l'île de Bornéo pour mettre des monocultures d'huile de palme. Il y a des chauves-souris. Alors, je suis devenue très amoureuse des chauves-souris. Parce que les scientifiques, d'abord, m'en ont parlé de manière tellement magnifique que voilà. Et c'est un animal extraordinaire, quoi, hein, qui est le seul mammifère volant. Et donc, pour faire cette prouesse, qui est de voler quand on est un mammifère, ils ont développé au cours de l'évolution un système immunitaire absolument hors pair, qui leur permet notamment d'héberger des centaines de virus, de bactéries, sans tomber malade. Voilà. Et en revanche, ce qui est très bien documenté, c'est que quand on les stresse, ces pauvres chauves-souris, alors si on brûle la forêt, évidemment qu'on les stresse parce qu'elles sont obligées, on détruit leur habitat, elles sont obligées de partir, elles se mettent à excréter par la transpiration, par les urines, les excréments, etc. Les virus, quand elles sont porteuses, et elles peuvent du coup contaminer d'ailleurs des animaux qui sont mammifères qui sont là ou des humains. Donc là, c'est ça qui se passe en fait. Elles sont obligées de s'enfuir. Elles sont frugivores, la grande famille de... des chauves-souris, il y a des carnivores, il y a des hématophages, on pense à Dracula, qui mangent du sang, qui se nourrissent de sang, ou d'autres qui sont frugivores qui mangent des fruits, ou d'autres qui sont insectivores qui mangent des insectes, c'est une grande famille. Celles-là sont frugivores, donc elles se rabattent sur les côtes malaisiennes, pas très loin, où on a planté une monoculture de manguiers au-dessus de fermes porcines industrielles. Donc c'est une double production. Alors évidemment, elles mangent les mangues.
Mais au-dessus, c'est-à-dire dans des champs...
Oui, c'est des fermes porcines industrielles, mais à air libre.
Ah
donc
oui.
On imagine, quoi.
D'accord.
Comme les feedlots américains, où il y a plein de vaches dehors, parquées par centaines et par milliers. Là, c'est pareil, c'est des cochons, mais ils sont dehors. Parce qu'il fait beau, il fait chaud, donc ils sont dehors. Mmh. Voilà. Et donc, elles mangent les mangues, évidemment. Il y a des mangues qui tombent, les cochons les mangent, ou elles font caca.
Mais oui.
Enfin bref. Ça va contaminer le cochon avec un nouveau virus qu'on va appeler Nipah, qui est le nom de la localité où ça se passe. Mmh. Et il faut savoir que le cochon, nous partageons beaucoup de choses avec ce brave animal. 95% de nos gènes, c'est pas mal.
C'est incroyable.
Quoi.
Hein, oui.
Et donc, c'est un pont épidémiologique extraordinaire pour qu'un virus qui vient d'une chauve-souris passe à l'homme. En fait, si on veut humaniser rapidement un virus zoonotique, le meilleur pont, c'est le cochon. Voilà. Parce qu'on est très proche de lui. Et là... pas manqué, les cochons sont contaminés et qui vont eux-mêmes contaminer les ouvriers agricoles, qui vont donc être atteints d'une maladie inconnue, très grave. Et ensuite, ça c'est l'ironie de l'histoire, parce que la Malaisie est un pays musulman, elle ne mange pas de cochons. Cette production est destinée à la Chine et donc les cochons sont envoyés à Singapour pour être abattus et donc les ouvriers des abattoirs vont être aussi contaminés. Fort heureusement, on va rapidement arrêter cette épidémie, mais en faisant une chose incroyable qui est systématique dans ce genre de situation, on va abattre des millions de cochons. Voilà. Biosécurité, n'est-ce pas? Et on va stopper
très
vite.
Ces abattages de millions d'animaux, c'est quelque chose de plus en plus
courant.
Fréquent.
On fait ça avec les poulets, dès qu'il y a
se banalise. Là aussi, le respect de la vie, là.
Mais le problème là, et c'est un maillon extrêmement important, c'est l'élevage industriel, qui est un pont très important pour amplifier la transmissibilité, si j'allais dire, d'un virus qui vient d'une chauve-souris ou d'un rongeur. Voilà. Et là, on a tout, quoi. C'est-à-dire la déforestation, élevage intensif, globalisation, parce que là, en l'occurrence, à Singapour, c'est pas très loin, mais quand même, on balade les pauvres cochons pour se faire abattre à Singapour. Et ça, c'est tous les ingrédients qui caractérisent l'émergence de ces nouvelles épidémies infectieuses. C'est les trois facteurs principaux. Après, on peut prendre chacun pour voir quelle est la part de telle activité, mais n'empêche que c'est ça le schéma. Et je trouve que l'exemple du virus Nipah est un très bon exemple pour ça.
Oui, ça illustre vraiment bien tout ça. Donc cette déforestation, on a du mal à s'en imaginer l'ampleur quand on est, nous, en France, dans nos villes, nos villages, et qu'on nous parle de la déforestation souvent à l'autre bout du monde. Et tu cites les chiffres de Global Forest Watch, parus dans leur bilan de l'année 2019. 24 millions d'hectares ont disparu, dont 3,8 millions d'hectares de forêts primaires tropicale. Et d'ailleurs, tu rappelles qu'à la conférence de Rio en 92, on avait prévu zéro déforestation pour 2020. Donc, on en est très, très, très loin. Donc, on détruit ces forêts pour faire quoi ?
Alors, on les détruit pour faire des monocultures, par exemple, huile de palme, pour ce qui est de l'Asie, par exemple.
Souvent pour l'exportation,
voilà,
donc.
EVA, du caoutchouc. Aussi beaucoup en Amérique latine pour faire du soja transgénique. Alors là, je retombe sur un sujet que je connais très très bien, soja de Monsanto, qui va ensuite nourrir les poules, les vaches et les cochons des élevages industriels européens. Et moi, je l'ai vu de mes propres yeux, je l'ai filmé, etc. On détruit pour l'exploitation du bois, par exemple, évidemment. On détruit pour exploiter des mines. Donc en général, pour ça, on fait des routes. Il y a un spécialiste des routes dans mon livre.
Ça revient souvent, le sujet des routes, ça m'a étonné aussi. Oui. Ils sont plusieurs à parler en fait des...
Parce que qu'est-ce qui va faire que l'intrusion humaine dans ces espaces vierges est possible ? C'est pas d'abord qu'on fait des routes. Voilà. Et par exemple, il y a un spécialiste allemand qui m'explique comment les routes finalement sont la première, le premier facteur qui va permettre un contact jusque-là totalement... improbable entre les humains et certains pathogènes, bien sûr. Et comment ça va tout bouleverser l'équilibre de l'écosystème par la présence de la route elle-même. Donc voilà, c'est aussi parfois pour faire de l'élevage. En Amazonie, par exemple, on déforeste pour faire de l'élevage. Et là encore, tout est lié parce que c'est souvent des bovins qui font partie de ce fameux accord du libre-échange qu'on est censé signer avec les pays du Sud, le Mercosur. Et qui prévoit notamment une clause pour importer du bœuf brésilien. Voilà. Donc, tout est lié.
Oui, et on marche sur la tête.
On marche sur la tête, voilà. Donc, voilà pourquoi on déforeste. Et après, il y a tout le problème de la pression exercée par des hommes et des femmes qui sont en état en grande précarité économique, sociale. Et donc, ils vont, ils déforestent parce qu'ils ont besoin de terre pour cultiver. Et on oublie trop souvent ça, et c'est important.
On va en reparler aussi, parce qu'en fait, il y a ce sujet de la pauvreté. Plusieurs des scientifiques en parlent aussi, et ça, c'est pareil, on ne fait pas souvent le lien.
Bien sûr.
Or, ça devient indispensable maintenant de le faire.
Bien sûr. La pression démographique, notamment, qui va faire que des familles très pauvres ont besoin de survivre. Et pour ça, c'est très bien dit par les scientifiques. D'ailleurs, c'est très touchant parfois, parce qu'ils se rendent compte de ça. C'est-à-dire que préserver la biodiversité sans s'attaquer à la question de la pauvreté, c'est absolument impossible. Mmh. Voilà. Mais tout ça, on revient toujours au fond du problème, qui est un modèle économique prédateur qui ne tient pas compte non plus des humains. Et ça aussi, c'est lié. Donc voilà pourquoi on déforeste. Il y a plein de raisons de le faire. Et le résultat, c'est qu'à chaque fois, les humains vont rentrer en contact avec des pathogènes qui jusqu'à présent étaient là à bas bruit, mais qui n'embêtaient personne, évidemment, parce que on n'était pas en contact avec eux, tout simplement.
Oui, parce que la nature est bien faite, parce que ça se tenait à distance, on se tenait réciproquement à distance, et du coup, on n'était pas ennuyés, et ces animaux-là pouvaient vivre tranquillement en portant leur virus.
Oui, bien sûr, et on pouvait très bien imaginer, parce que c'est abordé aussi dans le livre, que des peuples indigènes qui se déplaçaient dans les forêts d'Amazonie, ils étaient dans des gestions durables de ces espaces. Et donc, pas nous ce qu'on fait. C'est-à-dire, on fait une route, après on rase, on coupe massivement.
Comme c'est à grande échelle, on détruit des habitats sur des milliers d'hectares.
Voilà, c'est ça. Et du coup, il n'y avait pas de danger non plus, parce que c'est ça qu'on va découvrir, en fait. Comment la biodiversité, quand elle est très, très riche, eh bien, elle maintient à bas bruit l'activité des pathogènes qui ne sont du coup pas un danger. Voilà. Ou alors pourrait rendre malade une personne, mais c'est tout, quoi. Voilà. Oui. Et puis voilà. Oui. Ça...
Donc on crée bien les conditions pour que ça se développe et que ça se répande au maximum. Et Serge Morand a recoupé des cartes de zones. Donc là aussi, on est dans les choses très claires, très identifiées. Donc il a recoupé des cartes de zones de déforestation sur la planète et des cartes de zones où des épidémies apparaissent avec des points rouges. Et en fait, tu nous racontes que la superposition de ces deux formes de cartes donne un résultat, on ne peut plus clair, en fait.
Oui, tout à fait. Alors, et ça, c'est assez étonnant, en fait, parce que ce que dit Serge aussi, c'est que les pathogènes ne sont pas distribués par hasard sur cette planète, que le potentiel est beaucoup plus élevé dans les zones tropicales, parce que c'est là qu'il y a une grande biodiversité, ça on comprend, hein, donc il y a plein d'animaux sauvages, etc. Donc ils peuvent être réservoirs de plein d'agents pathogènes. Bon, une chose, alors on se dit, bon, ben alors si c'est comme ça, on rase tout et on est tranquille, quoi. Ben non, en fait. C'est le contraire qui se produit. Voilà. Et c'est assez contre-intuitif, en fait. Et
oui, en fait... mais en fait, c'est ça qui est merveilleux en même temps. Ouais. Et enfin, c'est moi ce que je trouve très important dans ce livre. C'est tellement urgent qu'on en prenne conscience, quoi.
Voilà. Et en fait, ce qu'il a montré, c'est qu'il a superposé donc, la carte de déforestation, qui est liée aussi à la carte des espèces menacées d'extinction, et la carte des flambées épidémiques. Mmh. Et c'est la même. Elles se superposent, les trois.
Les points rouges sont au même endroit.
Voilà.
Pour chaque domaine.
Voilà. C'est-à-dire que il y a le plus de foyers épidémiques, là où on détruit la forêt et là où on fait disparaître par notre activité des animaux, de la faune sauvage. Et là, on se dit, waouh, c'est quoi ça? Et c'est ça qui est très intéressant parce qu'en fait, ces scientifiques que j'ai interviewés ont mis au jour un mécanisme totalement méconnu. Et vraiment, hein, parce que j'en ai jamais entendu parler. Alors je sais que maintenant ça vient, ça, on reprend mon livre. Enfin, j'ai entendu récemment, c'est un petit clin d'œil, mais Secret d'Info qui fait un truc sur France Inter. Je trouvais ça un peu rude d'ailleurs, parce que c'était tout pompé dans mon livre, ils m'ont même pas cité d'ailleurs. Hein, bon, bref.
On le dit.
Non, mais c'est vrai. Ben, bon, voilà, moi je trouve qu'il faut un peu respecter le travail des autres.
Tout à fait.
C'est ce que j'ai fait. En tout cas.
Surtout que c'est un gros travail.
Oui, voilà. Et c'est inconnu totalement. Et ça s'appelle l'effet dilution. Et c'est quoi? Eh bien, l'exemple qui est donné, qui a servi de paradigme à ce mécanisme, c'est celui de la maladie de Lyme. Donc en fait, un couple de scientifiques américains, hein, parce qu'ils sont mari et femme dans la vie, j'ai découvert ça par hasard en les interviewant, a travaillé sur la maladie de Lyme, qui est une maladie en pleine recrudescence.
Ah oui, hein, dont on parle énormément en France, hein, maintenant. Oui.
Qui, je le rappelle, est transmise par des tiques. Les tiques qui se nourrissent sur des mammifères ou des oiseaux, ils ont besoin pour ça d'un repas sanguin, donc ils mordent ce qui passe par là, et ensuite, ils peuvent nous mordre nous. Voilà. Alors le problème, c'est s'ils mordent ce qu'on appelle les réservoirs de la maladie de Lyme, qui est une bactérie, hein, et en fait, ils ont identifié qu'aux États-Unis, par exemple, le réservoir de la maladie de Lyme, c'est la souris à pattes blanches. C'est un rongeur très particulier. Ça, c'est intéressant parce que c'est pas n'importe quel rongeur. C'est la souris à pattes blanches. Chez nous, c'est d'autres rongeurs, mais c'est toujours des rongeurs. La souris à pattes blanches. Et en fait, ils se sont rendus compte que si on est dans une forêt américaine très diversifiée, eh bien, quand une tique est là planquée dans l'herbe, hein, pour attraper
son petit
repas, elle ne fait pas la fine bouche, elle ne va pas chercher la souris à pattes blanches. Il y a un opossum qui passe par là très bien, un écureuil, un oiseau, n'importe quoi, ou un autre rongeur. Voilà. Et donc, en fait, pour réduire la probabilité qu'une tique s'infecte lors de ce repas sanguin, ce qu'il faut, c'est qu'il y ait plein de diversité, justement. Parce que
ça, elle a moins de chances de tomber sur la souris à pattes blanches.
Exactement. Et donc, la souris à pattes blanches, elle est considérée dans ce cas-là comme ce qu'on appelle un hôte compétent, c'est-à-dire qu'il est capable non seulement d'être le réservoir et d'avoir la bactérie de la maladie en soi, mais en plus de la transmettre. D'accord ? Donc, pour réduire le risque, il faut qu'il y ait plein d'hôtes non compétents, c'est-à-dire qu'ils vont être, y compris mordus par une tique infectée préalablement, mais qui ne vont pas développer la maladie. Et donc, pour ça, il faut une grande biodiversité. Et il faut plein de rongeurs différents, des oiseaux, etc. Et donc, pour réduire le risque infectieux, donc le risque que la tique soit infectée et qu'ensuite transmette son infection à des humains, voilà. Il faut beaucoup de prédateurs, hein, qui vont être des rapaces, des renards, en l'occurrence, là, voilà, qui vont contrôler la population des rongeurs en général et en particulier des souris à pattes blanches. Et ce qu'ont montré Rick Ostfeld et Felicia Kissing, qui sont donc les deux scientifiques américains dont je parle, ils ont fait des études incroyables. Hein. Ils ont montré que plus les forêts américaines sont fragmentées, C'est-à-dire que c'est des petits bouts de forêt avec des routes. Enfin, voilà.
Oui.
Plus elles sont fragmentées,
ça vient
plus
des petits bosquets. Quoi.
Ça vient des petits bosquets. Oui. Plus c'est incroyable, la présence des souris à pattes blanches est dominante.
Et oui, hein. Parce qu'elles n'ont plus de prédateurs.
Voilà. Et en plus, alors ça c'est très intéressant aussi, parce qu'ils ont montré, eux et d'autres d'ailleurs, que dans cette grande famille des rongeurs, alors c'est pareil, on finirait quasiment par tomber amoureux de ces rongeurs. J'ai un peu plus de mal qu'avec les chauves-souris, mais enfin quand même, ils en parlent tellement. Enfin voilà. C'est une grande famille avec plein d'espèces différentes, oui. etc. Eh bien, dans ces grandes familles de rongeurs, il y a deux catégories. Il y a la catégorie des rongeurs qu'on appelle spécialistes.
Ah oui.
Alors, les spécialistes, c'est quoi ? Eh bien, c'est un rongeur, une espèce particulière qui est liée à une niche écologique. C'est-à-dire, elle ne peut manger qu'un type de graine qu'il y a sur tel arbre, dans telle forêt. Moi, je viens de voir ça au Mexique, dans une réserve où il y avait un rongeur spécifique qui ne mange que les graines d'un arbre qui n'est que là. Et si l'arbre est abattu, eh bien, le rongeur, il disparaît. Parce qu'il ne mange pas n'importe quoi.
Oui, oui.
Il est lié vraiment à une niche écologique. Moi, en l'occurrence, au Mexique, c'était dans une mangrove. Donc, voilà. Si on détruit la mangrove, eh bien, cette variété de rongeur va disparaître. Or, ces rongeurs spécifiques, ils ont une caractéristique. Bon, ils ne mangent pas n'importe quoi. Ensuite, ils se reproduisent très lentement. Et ils ne survivent à aucune détérioration des habitats.
Oui, voilà. ils sont fragiles.
Ils sont très fragiles. Voilà. Donc, dès qu'on casse une forêt ou qu'on l'abîme, c'est les premiers à disparaître. Les autres, les généralistes, eux, ils se reproduisent alors là, énormément. Ils font plein de petits. Et puis, alors, surtout, eux, ils bouffent n'importe quoi. Mais n'importe quoi. C'est-à-dire que si tu mets du soja transgénique à perte de vue, ils sont ravis. Parce qu'ils vont bouffer le soja transgénique. Ce que ne feront pas les rongeurs spécialistes, parce que la junk food, eux, ils n'en veulent pas. La malbouffe, ce n'est pas pour eux. Alors, ces généralistes, eh bien, ce sont eux qui portent. C'est incroyable, hein ?
Oui.
Ce sont eux qui parlent pour des raisons d'évolution, enfin, qui vont faire que, justement, eux, ils sont capables.
Eh oui.
Ils sont endurants, oui. ils s'adaptent à tous les environnements, etc. Voilà.
Moins fragiles,
et ils se reproduisent beaucoup. Oui. Eh bien, les souris à pattes blanches en font partie. Par exemple, ce sont des rongeurs généralistes. Ce qui fait que quand tu fragmentes une forêt aux États-Unis, par exemple, ou tu la détruis parce que tu vas faire, moi j'ai vu ça dans l'Iowa, sur des milliers d'hectares du soja transgénique ou du maïs transgénique, eh bien, elles vont proliférer, les souris à pattes blanches. Mais pas que les souris à pattes blanches, les souris sylvestres aussi, pour une autre maladie, à hantavirus, qui est un autre virus. Donc voilà, ce sont les généralistes qui vont survivre, et voilà comment donc on augmente énormément le risque infectieux et d'émergence de maladies qui sont là dans des écosystèmes équilibrés à bas bruit, c'est-à-dire encore une fois, il pourrait très bien à un moment, tu pourrais avoir pas de chance et tomber sur une tique qui a effectivement mordu une souris à pattes blanches, mais voilà, mais il y a une personne et ça fait partie des risques de la vie. Mais là non, là on parle d'un risque d'épidémie, même s'il n'y a pas de transmission dans la maladie, oui. Mais enfin, n'empêche que l'augmentation est telle des cas qu'on peut parler d'épidémie.
Voilà. Voilà. Mais on en parle toujours quand même d'une. Enfin, moi, j'ai toujours entendu parler d'une augmentation un peu mystérieuse.
Oui,
on ne comprend pas pourquoi il y a tellement de cas d'un seul coup de maladie de Lyme. Voilà. Ça reste tellement comme ça, abstrait. Alors qu'en fait, on le sait déjà.
C'est pas abstrait du tout. Alors, mais en plus, tu peux ajouter le climat à ça parce que c'est rongeurs, oui. Généralistes. Eux. Les dégâts causés par le climat, etc., ils survivent à beaucoup de choses qu'ils ne survivront pas, donc les rongeurs spécialistes. Donc oui. Ça s'appelle l'effet dilution. La biodiversité dilue le risque infectieux.
Ça, c'est une phrase importante.
Voilà.
La biodiversité dilue le risque infectieux. Oui. Et lorsque tu demandes à Pierre Ibiche, professeur de conservation de la nature à l'université d'Eberswalde, au nord de Berlin, si une expérience a influencé sa carrière, il te parle d'un séjour qu'il avait fait pour sa thèse en Colombie et de deux enseignements qu'il en avait tirés. Le premier, c'est une fois qu'on a passé un certain point de bascule, la dégradation des écosystèmes est irréversible. Voilà, je répète pour ceux qui nous écoutent, une fois qu'on a passé un certain point de bascule, la dégradation des écosystèmes est irréversible, donc réveillons-nous. Et deux, on ne pourra pas préserver efficacement l'environnement sans régler la question de la pauvreté. Ouais. Et donc toi qui as travaillé et enquêté depuis des années sur des problèmes et des solutions pour l'environnement et les droits humains, est-ce que tu partages ce constat ?
Ah oui, tout à fait. Oui, d'ailleurs, c'est assez étonnant parce que finalement, cette parole des scientifiques, je dis bien parole parce que c'est la première fois que j'écrivais le livre avant de faire le film, donc avant, je ne les ai jamais rencontrés physiquement. Là, je viens de partir au Mexique. Enfin, je viens de rencontrer Gerardo Susan, qui est l'un de ceux qui a travaillé sur l'effet d'illusion. Ah, ça faisait plaisir. Enfin, voilà. Mais ce qui est intéressant aussi, c'était ces entretiens par Skype, finalement, faisaient qu'on se concentrait énormément sur la parole aussi. Et ils avaient envie de parler. Donc, ça tombait bien. Oui. Voilà. Oui. En fait, tout ça, tu vois, c'est comme un grand puzzle où tu as plein de pièces que tu... Et finalement, tu finis par les remettre dans le bon sens, dans le bon ordre. Et la vision globale, là, tu l'as d'un seul coup. Eh bien, oui, évidemment. Pour moi, c'est 30 ans de boulot, de films, de livres, etc.
Oui, là aussi, tout est lié. Hein.
Tout est lié. Et là...
Dans ton travail.
Oui, ça a remis de la cohérence. Là, ça y est, je me suis dit, waouh, ça y est. Quoi. Évidemment, toute cette détérioration de l'environnement que j'ai vue, moi, parce que je suis partie de cette génération qui commençait à voyager dans les années 1980, à un moment où c'était encore un privilège assez rare, hein, n'est-ce pas ? Et après, j'ai vu arriver la grande vague mondialisation des millions de touristes qui se déplacent partout et c'est devenu... Enfin, voilà. Et j'ai vu aussi, parce qu'il y a des pays où j'y vais depuis 25 ou 30 ans, le Mexique est un très bon exemple. Mais l'Afrique aussi, comment vraiment visuellement, j'ai vu la détérioration des forêts, des villes, enfin, et puis la pauvreté qui non seulement n'a pas régressé, contrairement à ce qu'on veut nous dire, mais eh bien, c'est propagé partout. Enfin, et comment tout est lié, la pression sur les écosystèmes, enfin, comment à un moment, toute cette exploitation complètement effrénée des ressources naturelles faisait que les océans sont pollués. J'ai fait des films là-dessus, enfin, ouais. Les pêcheurs ne peuvent plus pêcher, etc. etc. Enfin, donc, évidemment, tout est lié. Et quand Pierre Ibiche dit ça, moi, je me dis oui, bien sûr. Mais attention, parce que la tentation, ça serait de dire on est trop sur cette planète. Hein, c'est ce qu'on entend, ça, déjà. Hein. Et puis, finalement, même la pandémie, là, ça va faire que... Ça va un petit peu faire comme...
Oui, la sélection naturelle.
Voilà, la sélection naturelle. Non. La question de la pression démographique qui est liée, effectivement, sur les écosystèmes, liée notamment à la progression aussi... des populations, enfin, on est passé de 3 milliards à 7 milliards en 50 ans, quoi. Enfin, voilà. Elle est liée à la pauvreté. Et si on ne résout pas la question de la pauvreté, on ne résoudra pas non plus la question de la pression démographique, du coup, parce qu'il y en a qui le rappellent dans le livre, ils ont bien raison. On l'a bien vu dans les pays occidentaux, que quand tu atteins un certain niveau de développement, où tu peux avoir un toit sur ta tête, manger correctement, envoyer tes enfants à l'école et être soigné, eh bien, tu fais moins d'enfants, tout simplement. Eh bien, voilà. Donc, c'est tout. On en revient toujours au même. Là, pour l'instant, on est un modèle économique qui va faire qu'1% de la population mondiale détient autant que 3 milliards 500 millions. Voilà, c'est ça le problème, que 7 Français milliardaires possèdent autant que 30% de la population française. Et on a des inégalités qui sont absolument, que moi j'ai vu aussi, exploser, véritablement. Hein. Et c'est ça qui fait, qui est le problème. Et c'est tout. On revient toujours au modèle économique qui est à l'origine de ces grands dysfonctionnements.
Voilà. C'est la fin de la première partie de cette interview exceptionnelle de 2 heures pour parler avec Marie-Monique Robin de son livre « La fabrique des pandémies » aux éditions La Découverte et du documentaire qui va suivre. Ne manquez pas le second et dernier épisode qui sera en ligne d'ici quelques jours si vous écoutez le podcast autour du jour de sa mise en ligne le 18 mars 2021. Si vous l'écoutez un peu plus tard, vous pouvez dès maintenant accéder au deuxième épisode. À ne pas manquer. Chères auditrices, chers auditeurs, si vous avez apprécié ce podcast de So Sweet Planet, n'oubliez pas de lui mettre un avis favorable sur votre application de podcast, par exemple 5 étoiles sur Apple Podcast, et de rédiger un avis sympathique. Cela me fera plaisir. Pour plus d'informations sur les droits humains, l'environnement et la culture, vous pouvez suivre la page So Sweet Planet sur Facebook. Enfin, n'oubliez pas de vous abonner gratuitement, soit à la newsletter sur le site sosweetplanet.com, soit au podcast sur votre application de podcast pour être informé des prochains podcasts de So Sweet Planet mis en ligne. À bientôt !